RCF.
Made in Marne, émission présentée par Jérôme Gorgeau.
L'ambiance est assez créative autour de moi. C'est aussi un étonnant foutoir, mais il y a beaucoup de choses qui donnent envie. On est dans l'atelier de Mathias Jourduy, artisan d'art. Enfin, je crois que tu trouves le terme un peu pompeux, hein.
Oui, c'est vrai que c'est un petit peu pompeux. Bon, maintenant, c'est le terme exact. Effectivement, artisan d'art dans le béton et notamment les objets décoratifs en béton.
C'est ça. Alors, on est à la Croix-en-Champagne, donc joli petit village. Et là, c'est un sous-sol. Et alors, je dis ça, c'est un peu, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est un peu, ça va dans tous les sens. On sent vraiment qu'ici, il y a de l'effervescence, que ça bosse, il y a plein de pistes en cours et tu as plusieurs projets en cours. Ça se voit, quoi, ici.
Oui, alors effectivement, je travaille le béton et le béton, ben surtout à cette époque-là, il met un certain temps à sécher. Donc c'est vrai que j'entreprends beaucoup de supports ou d'objets différents en même temps pour me permettre justement, ben quand un est sec ou à peu près sec, je puisse continuer son élaboration pendant qu'un autre va finir de sécher. Après, il y a tout ce qui est phase de ponçage, de résinage, accessoirisation de tous les coques et les modules. Enfin, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail sur chaque objet et ça me permet comme ça, j'entreprends beaucoup d'objets à la fois, comme ça me permet toujours de pouvoir travailler en continu et en même temps varier les supports.
Parce que là, on a une odeur quand on rentre ici, c'est quoi cette odeur-là? Ça sent fort là.
Ah oui, alors là, j'utilise de la résine époxy pour certaines coques, uniquement d'ailleurs pour les coques qui sont destinées à contenir de l'eau en continu. Et scoop de l'interview, je vais arrêter justement cette fabrication de fontaine. En tout cas, je vais arrêter d'utiliser de l'époxy parce que justement, moi, je voulais me rapprocher de la nature. Je voulais que mes produits soient le plus naturel possible. Bon, j'utilise déjà un matériau, le ciment, qui est pas super naturel. Mais voilà, donc maintenant, je suis parti dans l'époxy parce que je voulais avoir une étanchéité parfaite. Mais bien, je me suis laissé piéger. Puis maintenant, je me rends compte que effectivement, ça pue. C'est vraiment pas naturel. Et je voudrais me réorienter vers d'autres matériaux plus naturel, et puis si ça n'existe pas, ben on arrêtera les fontaines et puis on fera autre chose.
Mais est-ce que c'est vrai qu'elles sont belles, hein, ça, on voit déjà le. Mais alors, on s'était déjà rencontré pour une autre émission que je fais, et tu m'expliquais un petit peu les origines de ce coup de foudre, on peut dire, un peu pour le béton. D'où ça vient? C'est quand même un matériau qui n'est pas si évident que ça pour un artiste ou un artisan d'art.
Non, c'est vrai. Alors je l'ai pas choisi. on choisit tout, mais là j'ai choisi sans choisir. En fait, moi je voulais faire rentrer la nature à l'intérieur. Donc quand je dis la nature, ça peut être le végétal, ça peut être l'eau, la lumière par l'intermédiaire d'ampoules,
le bois
comme ça. Le bois, effectivement, oui, le bois est assez présent dans mes réalisations. Et en fait, surtout par rapport justement au végétal, je me suis dit quel matériau pourrait être étanche pour contenir de la terre, de l'eau, des plantes. Donc le plâtre, je savais que non. La céramique, oui, mais il faut un four, il faut cuire, il faut de la patience, et je ne suis pas patient.
Ça ne se devine pas, parce que quand on voit tout ce qu'on voit autour de nous, on t'imagine très patient.
Oui, pas trop quand même. Donc, en termes de faisabilité, je me suis dit, le ciment, ça devrait être pas mal. On fait des maisons, les maisons sont à l'épreuve du temps. Donc, je vais passer par le béton, et en fait, je me suis rendu compte très vite que le béton n'était absolument pas étanche si on l'utilise brut comme ça. Donc, après, j'ai cherché, j'ai découvert de l'hydrofuge. J'ai découvert d'autres produits d'étanchéité et de fil en aiguille, j'ai réussi à obtenir des sphères. Moi, je travaille beaucoup principalement sur la sphère. Donc, j'ai réussi à créer des sphères qui étaient plutôt sympas, avec des épaisseurs qui sont quand même assez fines. C'est assez léger, tout en étant en béton. Et puis, maintenant, ça résiste très bien à l'humidité et ça contient des plantes et tout ce qu'on veut sans abîmer les surfaces des meubles ou quoi que ce soit.
Mais en fait, le béton, c'était quand même ton truc, parce que tu aurais pu te décourager quand tu as vu que c'était que l'eau passait, tout ça. Tu t'es accroché, tu as cherché des solutions. Tu aurais pu te dire, je me tourne vers, je sais pas quoi, l'acier. autre chose. Enfin...
Oui, mais à vrai dire, à ce moment-là, voilà, il fallait absolument que je persévère dans cet objectif du béton. L'acier, ça aurait été d'autres soucis, d'autres contraintes, et je ne maîtrise pas du tout. Donc, je suis un peu, enfin, même si dans le béton, je suis autodidacte, je pense que ça demande quand même moins de maîtrise dans le béton que l'acier, quoi.
En fait, ce qui est amusant dans cet atelier aussi, c'est qu'on a l'impression d'être dans un endroit où il y a eu des coquilles d'œufs qui ont été ouvertes, que des animaux seraient sortis. C'est très rond, c'est très sphérique, hein, c'est pas la forme d'un œuf. Mais comme c'est un peu ouvert, on a l'impression, comme pour accueillir, je sais pas, des végétaux, des choses comme ça, on a l'impression d'être à un moment donné où, après que les oiseaux soient sortis ou les animaux soient sortis des coquilles.
Effectivement, ça peut faire plein d'œufs éclos comme ça. Après, c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est que pour moi, enfin, je pense que pour vous, ce sont des coquilles justement ouvertes. Et pour moi, en fait, chaque coquille, enfin, je sais à l'avance ce que chaque coque va donner. En fait, il y a certaines que vous voyez, ça va être un pied de lampe. D'autres, ça sera une fontaine. Là-bas, c'est un faucon qui se dessine dans le moule. En fait, donc chaque quand je travaille mes sphères à l'avance, avant de faire une sphère, je sais déjà à quoi elle va servir, à quoi elle est destinée.
Parce que alors, faut qu'on fasse un peu le tour de tout ce que tu proposes. Alors déjà, rappeler le nom de ta structure.
Oui, donc moi c'est Rosanard, hein. Rosanard, donc c'était la contraction, enfin de deux prénoms, donc Rosa, ma grand-mère maternelle, et Bernard, mon père. Donc j'associe les deux familles sous un même nom, et puis en même temps, bah, les deux, il y a une symbolique. Ma grand-mère qui a développé ma créativité et qui s'aidait à mes quatre volontés quand j'étais enfant. Je voulais faire ça, elle m'aidait, elle m'assistait, voilà. Donc elle m'a permis d'aller très loin dans la découverte de ce que j'étais capable de faire manuellement et au niveau de la créativité. Et puis mon père Bernard qui m'a appris le vrai bricolage, enfin si je peux dire le bricolage, parce que c'était vraiment les techniques. Il a été agent de méthode, et après il s'est installé à son compte dans un atelier de mécanique générale, et il m'a appris à travailler, mais vraiment avec rigueur.
Il n'était pas maçon, il faisait pas du béton, non?
Alors mon grand-père était maçon, malheureusement il est parti avant de savoir que j'allais entre guillemets un peu suivre sa trace avec le CIM.
Tu dois penser à lui des fois quand tu travailles sur ton atelier, c'est, non, tu l'as dit,
oui, ouais. Oui,
il y a une filiation un peu.
Oui, c'est vrai que c'est dommage, j'ai regretté, parce qu'à quelques années près il aurait pu voir ça. Bon, c'est comme ça, c'est la vie.
Alors il y a une table derrière nous, là on tente la cascade, on se retourne, et en fait tu travailles là-dessus, c'est une table de quoi? Elle se plie, elle se relève dans tous les sens,
c'est... Alors ça c'est une table que j'ai achetée à un kiné, et en fait c'est super pratique parce que je peux toujours travailler à hauteur. Donc j'ai la petite pédale sous le siège, et en fait si je fais une très grosse sphère de 80 cm, je peux la mettre presque à ras du sol pour moi travailler à hauteur. Et puis si je travaille sur des petits modules, je peux la lever au maximum, et puis même travailler à hauteur, je crois qu'elle monte jusqu'à 90-95 cm, donc c'est super pratique.
Mathias, on peut te demander quoi? Qu'est-ce qu'on t'a déjà demandé? Sur quoi tu travailles? Parce que les gens peuvent ne pas connaître encore ton travail un petit peu, ça va de quoi à quoi?
Alors en fait, moi, ma spécificité, c'est quand même de travailler sur du sur-mesure. Je vais beaucoup chez les gens. Alors j'ai mon rouleau de craft qui est pas à l'atelier, qui est au-dessus. Donc j'arrive avec un rouleau de craft, de la gomme fixe, et puis un nuancier. Et puis j'ai des nuanciers au niveau de mes échantillons béton. Et puis ensuite, je me pose et j'écoute les gens, ce qu'ils veulent, à quoi ils aspirent, qu'est-ce qu'ils veulent représenter dans leur intérieur. Et puis ensuite, on va commencer avec le maître à percevoir des dimensions, hein. On va partir sur une dimension, un rectangle, un carré, une forme un peu plus, et ensuite je pose mon craft, et ensuite on va dessiner carrément le cadre qui ne sera pas rectangulaire, et on va dessiner le cadre. Après ils vont choisir les couleurs, ce qu'ils veulent dedans au niveau des couleurs du coloris béton. Est-ce qu'on met une baguette, est-ce qu'on met pas de baguette, est-ce qu'on met une branche, pas de branche, si c'est une branche est-ce qu'on va partir sur du lierre, sur du chêne, ils vont choisir leur essence de bois, la couleur, et à la fin je repars avec mon petit rouleau de crasse sous le bras, avec la forme de leur cadre qui me servira après de patron, et avec toutes les notes que j'ai prises en fonction de leur choix. Et après donc je peux composer à l'atelier leur cadre qui correspondra à 100% à leur intérieur.
C'est là, je vois, il y a une boule ouverte, il y a des personnages dedans, d'ailleurs on dirait pas, c'est sûrement une crèche, je suppose.
C'est une crèche, oui. Alors là on est le 10 janvier,
Le 10 janvier,
donc le 10 janvier, Noël n'est pas si loin. Donc vous voyez, donc là j'ai encore des crèches qui sont encore des crèches qui sont pas encore tout à fait terminées. Ça sera pour Noël 2024. Et puis dans le fond, vous pouvez apercevoir aussi des personnages de crèches. Donc voilà, donc les moules sont rangés, ça y est, ils sont nettoyés, sont rangés jusqu'à la on va dire jusqu'en septembre. Et puis il me reste encore quelques accessoires de Noël, oui.
Alors le Made in Marne, tu l'as intégré il y a combien de temps maintenant ?
Alors Made in Marne, je ne me rappelle plus. Je pense que ça fait un an et demi que j'ai intégré Made in Marne, et je trouve ça super.
C'est quoi l'idée ? Tu t'es dit ça fait du lien, ça fait de la pub ?
Alors en fait, moi l'idée, c'était de me dire que mon produit est 100% marnais, puisque vous voyez autour de vous tout se fait ici. Derrière vous voyez pas, mais j'ai les machines à bois quand je fais des cadres et tout ça, donc tout se fait ici. J'achète vraiment archi local.
Made in Cran Champagne.
Alors, peut-être pas Made in Cran Champagne, mais je vais sur Chalon, Reims, mais j'achète quand même beaucoup en local. Et donc, je trouvais dommage, étant donné que c'est un produit quand même 100% Marne, je trouvais dommage justement de ne pas correspondre à ce nom et à ce label Made in Marne, que je trouve super.
Mais toi, tu y trouves quel intérêt ? Je veux dire, est-ce que tu, depuis que tu as intégré l'aventure, bon, ça m'arrangerait que tu me dises que c'était bien, mais en quoi tu y as trouvé ton compte un petit peu ?
Eh bien, je trouve que Made in Marne, c'est être reconnu comme artisan local. Il y a quand même tout un cahier des charges pour faire partie pour être artisan Made in Marne. Et je trouve que c'est une reconnaissance et c'est un signe de sérieux et de qualité. Je pense que
tu crois que les gens cherchent ça aussi, d'avoir peut-être une étiquette qui montre une certaine, si ce n'est traçabilité, si un petit peu une identité. En tout cas, alors, d'un produit.
Je pense que avant Made in Marne, je me rappelle quand j'ai fait mes premières foires de Chalon, je l'ai encore l'étiquette, je marquais fabriqué à 25 km de Chalon. objet fabriqué à 25 km de Chalon, je l'ai encore, elle est au-dessus. Et donc j'étais déjà dans le local à dire voilà, c'est un produit, parce que sur la foire de Chalon, on trouve des gens de tous horizons, hein, du sud de la France. Hein, et justement, je voulais dire, moi je suis à la foire de Chalon, mais je suis local. Donc justement, Made in Marne me permet, quand je vais maintenant sur des expositions, des salons, des foires, j'ai mon petit roll-up et avec le petit cœur Made in Marne, et je le sors à chaque fois. Je trouve que c'est bien parce qu'on est identifié tout de suite à une région, à un département. Donc on sait d'où on vient, et puis après si les personnes sont curieuses, si elles veulent en savoir plus, moi je peux leur répondre à quoi correspond justement le critère Made in Marne.
Tu as des prochains rendez-vous qui nous attendent, où on peut peut-être espérer te croiser, des événements, ou c'est encore un peu tôt dans l'année ?
Alors c'est encore un petit peu tôt dans l'année, j'aimerais m'orienter, je suis en inscription là au Moulin de Givreval, là c'est dans la Meuse, et puis j'aimerais tenter R3F, le salon R3F,
très bien.
Tout début juin à Reims. Et puis voilà. Bon, après j'ai d'autres aussi projets en tête de réorganisation aussi, un petit peu de l'atelier, et puis de d'autres productions qui vont voir le jour en 2024. Voilà.
On est impatient de voir ça. Merci beaucoup Mathias, et puis à très très vite sur des salons, peut-être sur la foire ou ailleurs.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.